Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Konjaku Monogatari Shu. Tel est le titre d'un recueil de contes qu'on suppose avoir été écrit vers la fin du XIe siècle par un certain Minamoto no Takakuni. Il fut publié en France en 1968 chez Gallimard sous le titre « Histoires qui sont maintenant du passé » dans une traduction de Bernard Franck. Dans l'introduction de l'ouvrage, ce dernier notait « Les détails touchants, piquants, scandaleux se succèdent dans ces histoires et l'auteur s'y montre aussi à l'aise qu'il se révèle d'autre part délicieux hagiographe et maître en la peinture du sentiment religieux. Les deux sortes de thèmes se mêlent d'ailleurs volontiers sous son pinceau et il n'y a point à cela tant de contradictions. N'est-ce pas dans ce monde de passion qu'il faut chercher le monde de Bouddha qui n'en est finalement qu'une nouvelle vision, une vision dans l'état d'éveil ?» En 1976, pour l'émission « Bonne nouvelle, grand comédien » de Patrice Galbaud, Catherine Sellers lisait l'un de ses contes dans lequel un moine trouvait précisément la voie de la sagesse religieuse en empruntant les chemins de la passion amoureuse. Première diffusion sur France Culture le 20 juillet 1976.
J'ai choisi un extrait de « Histoires qui sont maintenant du passé », recueil de récits japonais écrit au XIe siècle par Minamoto no Takakuni. Comment un moine du mont Iei obtint la sapience par le secours du Bodhisattva Kokuzo. C'est maintenant du passé. Il y avait au mont Iei un jeune moine. Après qu'il fut sorti de la famille, il avait eu l'intention d'étudier. Mais, ayant mis son cœur aux amusements, ce n'était point arrivé qu'il étudiât. À peine avait-il seulement appris le sutra du lotus de la loi. Comme cependant il avait toujours l'intention d'étudier, il se rendait habituellement en pèlerinage à Orin, et y priait le Bodhisattva Kokuzo. Malgré cela, il ne prenait pas sur le champ de décision, et comme il n'arrivait point qu'il étudiât, c'était un moine qui ne savait absolument rien. Le moine, lui-même se désolant et s'affligeant de cette chose, s'était un jour vers le 9e mois rendu en pèlerinage à Orin. Lui qui voulait rentrer de bonne heure, des moines du monastère qu'il connaissait se trouvèrent là, et ils parlèrent de choses tant que le jour peu à peu arriva vers le soir. Sur ce, le moine de s'en retourner en hâte. Mais comme il se trouvait à la hauteur de la capitale à l'ouest, voici que le jour acheva de s'assombrir. Il s'enquit alors de quelqu'un qu'il connaissait, mais les maîtres de cette maison-là étaient allés à la campagne et il n'y avait personne, fort une domestique de garde. Sur quoi, pour s'enquérir d'un autre endroit connu de lui qu'il y avait, il suivit un chemin dans lequel se trouva une maison au portail chinois. Sous ce portail se tenait une fraîche jeune fille qui portait l'une sur l'autre plusieurs robes de dessous. Le moine s'approcha et dit à cette fille: m'étant rendu en pèlerinage de la montagne à Orin, je m'en retournais lorsque le jour s'est assombri. Aussi, pour cette nuit seulement, ne voudriez-vous pas me loger en cette demeure ? La fille: veuillez-vous tenir ici un moment, je m'en vais en parler et je reviens. elle dit et entra. Puis aussitôt elle ressortit, disant « Ces choses on ne peut plus facile, veuillez vite entrer. » Le moine tout réjoui entra, et on l'installa dans une pièce en saillie où on avait allumé une lampe. On y avait aussi dressé un paravent d'une hauteur de 4 pieds à la fraîche apparence, et on y avait déroulé 2 ou 3 nattes à bordure de corée. Là-dessus, une fille vêtue d'une robe de dessous et d'un pantalon large apporta des nourritures disposées sur une haute coupe. Le moine mangea le tout, but le saké et le reste, et s'étant lavé les mains demeurait là, quand, de l'intérieur, on ouvrit une porte à glissière dans l'embrasure de laquelle on dressa une portière mobile. Puis une voix féminine s'éleva, disant « Quel homme êtes-vous donc qui nous avait fait ainsi l'honneur d'entrer ?» Le moine répondit que, s'étant rendu en pèlerinage de la montagne à Aorin, il s'en retournait, lorsque le jour s'étant assombri, il s'était ainsi arrêté pour la nuit. La femme dit « Puisque vous vous rendez habituellement en pèlerinage à Aorin, veuillez donc à chacune de ces occasions venir ici. » Ce disant, elle rentra après avoir fermé la porte à glissière. Elle avait rajusté celle-ci, mais du fait d'un bras de la tenture mobile qui y était resté pris, elle n'avait pu la rajuster parfaitement. Après cela, comme la nuit s'était peu à peu avancée, le moine sortit au dehors. Il passa en musardant devant le volet de la façade sud, et comme il regardait, il vit qu'il y avait dans le volet un trou. Comme il observait au travers, il vit qu'il y avait là une femme qui semblait être la maîtresse de maison. Elle avait posé près d'elle un lampadaire court et était couchée, occupée à lire un livre. C'était une femme d'environ 20 ans. Sa figure était belle et il n'y avait rien qui pût égaler la majesté de son maintien. Elle était couchée, habillée d'une robe de damas mauve. On voyait ses cheveux qui étaient longs au point qu'ils se recourbaient sur la traîne de sa robe. Par devant, 2 femmes dormaient derrière une portière mobile. À distance de là encore dormait une fillette. C'était sûrement la personne qui tout à l'heure avait apporté et servi à manger ses choses au moine. La perfection de l'intérieur était au-delà de toute limite. Sur 2 planches en étagère, on avait disposé çà et là une boîte à peigne et une boîte à écritoire en laque décorée. Sans doute avait-on mis du parfum à brûler discrètement dans une cassolette, car il parvenait une suave odeur. Le moine, à la vue de cette maîtresse de maison, devint oublieux de toute chose. Moi, quelle existence antérieure ai-je eue, grâce à quoi, m'arrêtant ici, j'ai pu trouver cette personne, se dit-il joyeusement. Et ne songeant plus qu'il pût encore vivre en ce monde s'il ne menait à bien cette pensée, et dans l'idée que tout le monde dormait et que cette personne, elle aussi, dormait sûrement, il ouvrit la porte à glissière qu'elle n'avait pas fermée parfaitement, et doucement, s'étant approché à pas de loup, il s'étendit à côté d'elle. Ce que la femme, comme elle était bien endormie, ne connut en rien. À se tenir tout près d'elle, sa fragrance était indicible. Il eût voulu la réveiller, lui parler, mais il était extrêmement désemparé. Tout en n'arrêtant pas d'invoquer le nom du Bouddha, il écarta le vêtement de la femme et mit la main dans son sein. Sur quoi elle s'éveilla en sursaut, disant « Hé là, qui est-ce ?»«
C'est un tel, » répondit-il.
Alors la femme de dire « Je vous avais logé ici parce que j'avais pensé que vous étiez un homme digne de respect. Puisque vous êtes ainsi, j'en ai bien du regret. » Le moine essaya de se rapprocher, mais la femme ramena sur soi son vêtement et point n'arriva qu'elle devint familière et s'unit à lui. Le moine, cependant, était au-delà de toute limite, en proie à d'âcres tourments et au désordre de l'affliction. Néanmoins, pour ce qu'il avait honte de ce qu'on l'entendit, il s'abstint d'agir par force. Alors la femme dit « Pour moi, ce n'est pas que je ne veuille pas obéir à ce que vous direz. Comme celui qui fut mon mari est mort au printemps de l'an passé, depuis lors, les gens ont été nombreux qui m'ont fait tenir des propositions. Mais, résolu à ne point regarder quelqu'un qui n'aurait rien de remarquable, je suis demeurée dans mon état de veuve. Ceci dit, j'aimerais tout au contraire pouvoir respecter un moine tel que vous. Aussi, ce n'est pas que je vous exprime un refus, mais... Savez-vous dire par cœur le sutra du lotus de la loi? Et votre voix est-elle précieuse? Car s'il en était ainsi, sous prétexte de révérer le sutra, je pourrais, sans le faire voir aux gens, m'unir à vous? Que vous en semble? Le moine dit « Le sutra du lotus de la loi, je l'ai appris. » Mais, par cœur, je ne le récite pas encore. La femme dit, « Parvenir à le réciter est-il une chose si difficile ?» Le moine dit, « Comment n'y parviendrait-on pas ? » Mais, quant à moi, j'ai mis mon cœur aux amusements, et c'est pourquoi je ne le récite point. La femme dit, « Retournez en hâte à la montagne, et revenez quand vous réciterez le sutra. » À ce moment-là, en cachette, je m'unirai à vous conformément à votre intention initiale. » Le moine, entendant cela, renonça aux choses mêmes qu'il avait si instamment voulu, et comme la nuit était peu à peu arrivée vers l'aube, en disant « Ainsi donc ?» il sortit secrètement. Au matin, on lui servit à manger des choses et on le renvoya. Le moine étant retourné à la montagne, à se rappeler l'air et la façon d'être de cette personne, il lui fut difficile de l'oublier. Il garda l'esprit fixé sur elle. Comment vite parvenir à réciter ce sutra et aller là-bas la rencontrer? À cause de cette pensée, il récita avec tant d'empressement qu'au bout d'environ 20 jours, il était parvenu à dire le sutra par cœur. Comme, durant le temps même qu'ainsi il récitait, point n'arrivait qu'il oubliât cette femme, il lui envoya régulièrement des lettres. Avec chacune des réponses qu'elle y fit, elle lui envoya de la toile à vêtements légers et du riz cuit séché dans un sac. Aussi pensait-il, c'est que vraiment elle compte sur moi. Et dans son cœur, ses joyeuses pensées étaient au-delà de toute limite. Vu qu'il était parvenu à réciter le sutra, comme à son habitude, il se rendit en pèlerinage à Orin. Et au retour, de même que la première fois, il s'en fut à cette maison. Ainsi que précédemment, on lui servit à manger des choses, puis la maîtresse de maison sortit pour le rencontrer. Elle bavarda avec lui, et lorsque la nuit se fut peu à peu avancée, elle rentra. Le moine, s'étant lavé les mains, s'installa à réciter le sutra. Sa voix était précieuse à l'extrême. Mais dans son cœur, il n'y avait aucune place pour la récitation. Comme la nuit, entre-temps, s'était beaucoup avancée, il semblait que tout le monde dormît. Alors, le moine, comme la première fois, ouvrit la porte à glissière et s'approcha doucement à pas de loup. Sur quoi, il n'y eut personne qui s'aperçut de rien. Il s'approcha plus près, s'étendit à côté de la femme, et voici qu'elle s'éveilla en sursaut. Joyeux à l'extrême à la pensée qu'elle l'attendait, il voulut mettre la main dans son sein, mais la femme, ramenant sur soi son vêtement, ne l'y laissa pas l'introduire, et lui dit « Il y a une chose que je veux vous demander. sans faute, avant tout, je veux vous la demander. Voici ce que je pense. Ce sutra, maintenant vous le récitez. Mais si c'était en nous fondant sur cela seul que nous nous initions, et qu'après nous éprouvions mutuellement du mal à nous séparer, c'est que nous ignorerions toute honte, même aux yeux des gens. Pour moi, il ne serait point déplaisant, bien au contraire, de devenir la compagne de quelqu'un tel que vous, mais être devenue la compagne d'un individu dont toute la sagesse tiendrait en cela seul qu'il pourrait lire un sutra me laisserait quand même bien du regret. Tant qu'à faire, ne voulez-vous pas devenir un clerc comme il faut? Car alors, vous pourriez jouer le conseiller qui d'ici s'en irait en service chez de nobles seigneurs, voire chez des altesses, voilà qui serait bien. Un homme qui ne peut que lire un sutra, on ne l'envoie pas au dehors. Et le maintenir en réclusion n'est pas non plus chose qui convienne. Et parce que cela m'est agréable d'être ainsi intime avec vous, je me dis, ah, si tant qu'à faire, je pouvais le voir devenu tel. Et moi, qui pense à vous pareillement, si vraiment vous m'aimez, restez en réclusion au moins 3 ans dans la montagne, étudiez jour et nuit, et lorsque vous serez devenu un clerc, revenez. À ce moment-là, je me rendrai à vous. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, me tueriez-vous que cela ne servirait de rien. Durant votre réclusion dans la montagne, je vous ferai parvenir régulièrement des nouvelles. Et s'il arrive que vous soyez dans le besoin, je m'en préoccuperai. Le moine, lorsqu'il entendit cela, comprit qu'en vérité c'était bien une affaire telle qu'elle disait. Et puis, traiter avec violence, sans compassion, une personne qui savait parler ainsi, eût été pitoyable. En outre, il songea que de cette façon il pourrait vivre en s'en remettant pour ses besoins aux soins de cette personne. Alors, déposant encore et encore entre ses mains un engagement d'amour, il sortit. Quand la nuit se fut éclaircie, il mangea des choses et remonta à la montagne. Après cela, il se mit à étudier et ne se relâcha ni jour ni nuit. Comme il ressentait le désir de rencontrer cette femme ainsi que du feu qui l'eût secoué dans sa tête, il étudia à s'épuiser le cœur, à se rompre le foie. Tant qu'au bout d'environ 2 ans, il était devenu un clerc. C'est parce qu'il était depuis toujours intelligent et vif qu'ainsi rapidement il devint un clerc. Lorsqu'on fut arrivé à la 3e année, c'était véritablement un clerc d'une suréminente distinction. Aux controverses du palais, chaque fois qu'il parut, il l'emporta sur les autres et reçut des louanges au-delà de toute limite. Parmi les clercs en âge d'être ses condisciples, cet homme l'emportait, répétait-on sur la montagne. Cependant, éphémère, les 3 ans se trouvèrent accomplis. Comme durant le temps même qu'il était ainsi demeuré en réclusion, on s'était sans cesse informé de lui de la part de cette personne, il était grâce à cela généralement resté calme. Du fait que les 3 années avaient passé et qu'il était parvenu à devenir un clerc, dans l'idée de rencontrer cette personne, comme à son habitude, il se rendit en pèlerinage à Aurin. Puis au retour, vers la tombée du soir, il s'en fut à cette maison. Il avait par avance annoncé qu'il viendrait. Et, tandis qu'installé dans la pièce habituelle, il disait à travers la cloison son incertitude des dernières années. La maîtresse de maison, à son tour, vu qu'elle n'avait vraisemblablement avisé personne de ce qu'elle avait avec lui une pareille intimité, lui fit dire par l'une de ses femmes « Vous qui daignez souvent vous arrêter ici, si je ne vous parle jamais moi-même, vous penserez sans doute étrangement. Aussi, pour cette fois, veux-je vous parler en personne. » Comme elle lui faisait dire ainsi, Le moine dans son cœur fut joyeux au point que la poitrine lui sautait. « Je me tiens respectueusement à votre disposition, » répondit-il seulement en peu de mots. « Veuillez entrer par ici, » lui dit-on. Comme là-dessus tout réjoui, il entrait et regardait. Il vit qu'à l'extérieur d'une portière mobile, placée au chevet du lieu où était étendue la dame, on avait déroulé une natte à la fraîche apparence et posé sur celle-ci un coussin rond de paille tressée. Il semblait qu'une femme seulement se tint du côté du pied de la couche. Lorsque le moine se fut approché et installé sur le coussin, la dame dit « L'incertitude des dernières années s'est accumulée en moi. Eh bien, un clerc, en êtes-vous devenu un ?» La voix dont elle parlait était aimable et charmante. Le moine, à entendre cela, ne sut plus où poser son cœur. Et le corps même tout tremblant, il dit « Ce n'est pas là certes une chose remarquable, mais ayant paru aux controverses du palais, j'y ai été l'objet de louanges. » La dame dit « Voilà une affaire dont je suis extrêmement heureuse. Mais je voudrais vous questionner sur des choses à propos desquelles j'éprouve de l'indécision. À vous questionner sur des choses de cette sorte, je vous sentirai comme un maître de la loi. Un homme qui ne peut que dire un sutra, je le sens comme un rien du tout. » Elle dit, et en commençant par le chapitre préliminaire du sutra du lotus de la loi, elle le questionna sur toutes sortes de passages au sujet de quoi elle avait des doutes et touchant lesquels il était difficile de répondre. Or, il répondit selon ce qu'il avait appris. Enchaînant là-dessus, elle fit ses questions plus difficiles. Comme il répondait en pesant bien ses mots, ou encore d'après des dires laissés par les anciens de toutes les générations d'avant, la dame dit « Vous êtes devenu un clerc de la plus suréminente distinction. Comment avez-vous pu devenir ainsi en 2 ou 3 ans? C'est que vous êtes extrêmement intelligent et vif. » Comme elle le louait ainsi, le moine pensa « Que toute femme qu'elle est, elle connaisse ainsi la voie de la loi est une chose à laquelle je ne me serais pas attendue. Mais même pour nos conversations intimes, voilà qui sera excellent. Telle est donc la raison pour laquelle elle m'avait exhorté à l'étude. » Ainsi songeait-il. Et comme, durant le temps qu'il bavardait, la nuit s'était avancée, il releva tout doucement la portière mobile et entra. Puis, comme la femme restait étendue sans rien dire, il s'étendit à côté d'elle en pensant joyeusement. La femme dit « Restez un peu comme ceci. » Et en se tenant seulement par les mains, ils demeurèrent étendus à bavarder. Sur quoi le moine, qui, durant l'allée de la montagne à Orin et le retour, avait marché jusqu'à la limite de ses forces, se laissa aller et s'endormit. Il s'éveilla en sursaut. « Oh, je me suis bien endormi, moi. Je n'ai même pas dit les choses à quoi j'avais songé, se dit-il. » Et là-dessus, tandis qu'il s'éveillait, ses yeux s'ouvrirent. Comme il regardait, il vit qu'il était couché en tenant ployé contre lui des graminées qui poussaient là. C'est étrange, pensa-t-il. Il leva la tête, promena son regard à la ronde, et voici qu'au milieu d'une lande dont il ne se rappelait pas où elle était et où il n'y avait aucun semblant de présence humaine, il était étendu tout seul. Cœur égaré, foi révulsée, l'effroi qu'il éprouva fut au-delà de toute limite. Il se leva, et comme il regardait, il y avait là à côté de lui ses vêtements qu'il avait enlevés et éparpillés. Il les prit dans ses bras, demeura debout quelque temps, Et comme il promenait son regard à la ronde, il vit que c'était au milieu d'une lande voisine à l'est de la lande de Saga qu'il avait été étendu. L'étrangeté de la chose était au-delà de toute limite. Sous la clarté de la lune du petit matin, vu qu'on était alors vers le troisième mois, il faisait un froid extrême. Il fut saisi d'un tremblement. Il n'avait plus l'intelligence de rien. Comme il ne se souvenait d'aucun endroit où sur le champ il pût aller, il songea que de là, Aurin était le plus proche. Qu'il allait s'y rendre et y laisserait la nuit s'éclaircir. Alors, à vive allure, il y partit. Sur quoi il passa la rivière Katsura. Du courant de celle-ci, qui devait couler à la hauteur de ses hanches, il fit résolument la traverser, puis, tout tremblant, s'enfuit jusqu'à Aurin. Il pénétra dans le sanctuaire, et là, devant l'auguste présence, étendu à plat ventre, il dit « Voici quelle triste et effrayante histoire il m'est arrivée, daignez me secourir !» En disant cela, tandis qu'il était étendu, il s'endormit. Dans un rêve qu'alors il vit, un petit moine au crâne bleu, d'une figure bien faite, sortit de derrière l'auguste tenture, et s'asseyant près du moine, lui fit cette annonce. « La machination dont tu as été victime cette nuit n'était pas une machination due à quelque renard ou à quelque bête maléfique. C'était une chose que j'avais, moi, Kokuzo, machinée. Toi, bien que tu fusses d'un esprit intelligent et vif, tu mettais ton cœur aux amusements, et n'étudiant point, tu ne devenais pas un clerc. Néanmoins, de cela ne te sentant pas rassuré toi-même, toujours tu venais auprès de moi et tu me pressais, donne-moi du talent et fais que j'aie la sapience. Aussi, moi, tournais-je mon esprit en tous sens, en me demandant comment je pourrais faire arriver cette chose-là, et puis, j'ai pensé que tu as le cœur assez porté vers les femmes, et que donc, grâce à cela, je pourrais t'exhorter à gagner la sapience. C'est pourquoi j'ai fait cette machination. Aussi, toi, cesse d'avoir de la crainte, retourne en hâte à ta montagne, étudie toujours plus la voie de la loi, et surtout, jamais ne te relâche. » Comme il disait cela, le moine s'éveilla de son rêve. Et lorsqu'il pensa que pour le secourir, le bodhisattva Kokuzo s'était durant des années métamorphosé en un corps de femme et avait fait des machinations, il se sentit rempli de honte et d'émotion au-delà de toute limite. Laissant couler des larmes, saisi de repentir et de chagrin, après que la nuit se fût éclaircie, il s'en retourna à la montagne et toujours plus de tout son cœur, il étudia. Et il devint véritablement un clerc d'une suréminente distinction. Ainsi dit-on qu'il a été rapporté.
C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien. Catherine Sellers lisait un conte extrait des histoires qui sont maintenant du passé de Minamoto To Takakuni dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 juillet 1976. Réécoute et téléchargement à la page des nuits sur le site franceculture.fr.